Chapitre 5e, le coup du chien. Cependant, les bandits, ayant appris de la bouche de leur chef ce que celui-ci avait fait après leur départ précipité, ayant su que la voûte percée à coups de pioche avait, comme on s'y attendait, versé des torrents d'eau dans ce souterrain formant poche et cul-de-sac, aucun des complices ne put mettre en doute que Martin Huma était à cette heure noyé, muré dans une tombe absolument inviolable. Pour tout le monde, Martin Huma était bien mort. Le chef leur avait dit, lors de la dernière réunion, que malgré l'arrivée du secours des hommes de Martin Huma, il avait été matériellement impossible de sauver le roi des détectives. Il avait été au-dessus des forces humaines de l'arracher à la mort, car l'eau envahissant cette sorte de crypte ne donnait pas le temps, malgré toute diligence, de défaire le mur derrière lequel se trouvait Martin Huma. Les sauveteurs, à moins d'être scaphandriers, ne devaient pas continuer leur travail sous l'eau, ne pouvaient arriver à aucun résultat. Il fallait donc considérer Martin Huma comme rayé des humains. On pouvait désormais reprendre la marche des événements, continuer le travail occulte sans plus se soucier de cet homme redoutable. Pendant quelques jours, les bandits, nous le savons, demeurèrent, par prudence, éparpillés. Pendant ces quelques jours, ils se gardèrent bien de descendre dans le souterrain. Ils se contentèrent de poster des espions partout, de surveiller les alentours du théâtre de cet événement souterrain. Et ils purent voir Prosper et Philippe, affolés, faire des recherches sous terre, dans les environs. Ils purent me voir moi-même, en quête de nouvelles. Ils suivirent nos confrères, eurent avec eux des interviews, leur posèrent des questions, sans que ceux-ci puissent se douter de la qualité des gens avec qui ils parlaient. Enfin, ils partagèrent l'émotion générale quand on annonça la disparition inexplicable de Martin Huma. C'était pour eux la confirmation de la réussite de leur coup. De leur côté, Prosper, Philippe et les hommes de Martin Huma jouèrent admirablement leur rôle. Ils cherchèrent avec conviction dans les sous-sols et partout, et leurs figures reflétaient une douleur et un désespoir considérables. Vraiment, ils pleuraient la mort de leur chef. Peu à peu, eux aussi s'éparpillèrent, semblant avoir renoncé à poursuivre des recherches qui demeuraient toutes vaines et promettaient de ne donner aucun résultat. Ils s'élancèrent sur de nouvelles affaires et Prosper eut l'air de prendre la place du chef tant regretté. Pendant ce temps, nous savons que Martin Huma se remettait de cette alerte, préparait un nouveau coup. Martin Huma tenait à sa revanche et il était homme à l'acquérir, à l'obtenir, en risquant cette fois plus fortement encore, s'il était possible, sa vie. Cette absence du roi des détectives, ce silence, cette nouvelle direction prise par sa brigade lancée sur diverses affaires, finirent par rassurer tout à fait les égoutiers fantastiques. Un à un, prudemment, ils se hasardèrent à descendre dans le souterrain. Martin Huma, naturellement, était informé immédiatement de la reprise des affaires des bandits. Il les laissa donc regagner confiance et, avec assurance nouvelle, se remettre à leur besogne secrète. Il attendait son heure où il ferait apparition, où il frapperait le grand coup définitif. Cependant, cette fois rendue plus prudente, la bande des égoutiers fantastiques ne se contenta pas des mesures de sécurité habituelles et elle employa un nouveau moyen pour se sauvegarder. Elle se servait d'un chien, une sorte de griffon mal peigné, mais au sens très développé, à l'intelligence très accusée. À ce chien, on fit parcourir le souterrain aboutissant au réduit où les égoutiers avaient établi leur atelier de faussaire. On lui apprit à reconnaître les complices et à donner l'alarme dès qu'il sentirait quelqu'un d'étranger. Martin Huma et Prosper, qui allèrent, dans l'intervalle, visiter encore le sous-sol, aperçurent les traces des pattes du chien. « Ah ah !» dit Martin Huma. « Il se sert d'un chien pour se garder, c'est parfait. Il n'est aucun animal d'aussi bonne garde, d'aussi bonne veille que ce meilleur ami de l'homme. Mais il n'est pas animal qu'on puisse aussi facilement tromper. » Et en riant, il ajouta, « Si les Romains avaient eu des chiens pour garder le Capitole, les Gaulois auraient pu réussir leur coup. Mais les oies, qu'on prétend trop bêtes, donnent de la voix à tout propos, on ne peut pas les tromper. » C'est en somme l'animal qui garde le mieux une ferme et une basse-cour. Seulement, l'oie n'est pas l'animal que la meute puisse imposer comme gardien. Quant à moi, si j'avais un coffre-fort à faire surveiller, au risque, mon cher Courville, que cela puisse paraître paradoxal, j'écarterai le chien et j'y mettrai deux oies. Les voleurs n'entreraient pas, car il serait impossible de faire à ces oies stupides, mes gardiennes merveilleuses, ce que nous allons faire aux chiens de ces malfaiteurs, animal très intelligent, d'excellente garde, et que l'on peut admirablement duper. Le lendemain, Martin Huma et Prosper redescendirent dans le souterrain et semèrent sur le parcours habituel quelques morceaux de fromage. « Il est évident, dit le chef, que les rats, fort nombreux en cet endroit, vont se régaler. Mais il en restera tout de même assez pour que ce fidèle chien y trouve son compte. » Car en effet, la distribution de fromage ne fut faite que quelques instants avant que la bande des égoutiers fantastiques fît son apparition dans son repaire. Le chien ne manqua pas, tout en parcourant le souterrain, de flairer le fromage et de l'avaler au passage. Il s'en montra tout à fait heureux et ne se demanda pas, lui, comment il se faisait dans un souterrain qu'il trouvait des restes d'excellent fromage. Pendant plusieurs jours, Prosper se chargea du soin de renouveler l'amorce. Le chien, habitué à ce régal, parcourait avec une ardeur merveilleuse, à la grande admiration de ses maîtres, ce souterrain rempli de friandises. « Quel brave animal !» disaient les égoutiers fantastiques en écoutant leur chien renifler à plein museau tout le long du souterrain. « Comme il nous garde bien ! Quel nez il a ! Avec lui, nous sommes tranquilles. Personne autre que nous ne pourra pénétrer dans ce souterrain sans que nous soyons aussitôt avertis. » En principe, c'était vrai. Logiquement, c'était raisonnable. Mais à l'application, tout était différent. Il y avait là Martin Huma. Et avec lui, les meilleures combinaisons se trouvaient changées, les meilleurs plans démolis, et la surprise la plus invraisemblable arrivait à se réaliser. La distribution du fromage était la première manœuvre, pour ainsi dire, du plan établi par le roi des détectives. Il fallait d'abord apprivoiser le gardien, comme dans toute l'histoire de garde, d'amour et de prison. On doit amadouer en premier la duègne qui veille sur la jeune fille, et graisser la patte du geôlier qui détient le prisonnier. Le chien, au bout de quelques jours, avalait de confiance simplement, en sentant le fromage, les bouts qu'il rencontrait sur son passage. Quand il fut bien habitué à ce régal, le jour où Martin Huma décida de tenter la descente, Prosper alla semer des petits cubes de fromage creusés, au centre desquels il introduisit une bonne pilule d'opium. Puis, très confiant, il rejoignit son chef et il attendit l'heure de la descente. Nous savons qu'elle s'est effectuée par l'église de la Trinité. Le chien, sans méfiance, écouta sa gourmandise, avala gloutonnement le fromage perfide. Il fit, avec le poison de l'estomac et glissant dans ses veines, sa visite habituelle. Il vint nous flairer, mais s'écarta de la toile enduite de piments et de produits chimiques que Prosper et Philippe tenaient devant nous comme un mur. Il donna à ses maîtres l'assurance qu'il n'y avait rien de suspect dans le souterrain. Involontairement, il trahit ceux qui avaient confiance en lui. Ainsi, toute disposition était prise par Martin Huma lorsqu'il eut le sentiment que les bandits étaient tout entiers à leur travail et ne se préoccupaient pas d'être surpris, gardés comme ils se croyaient encore par leur chien couché devant la porte de leur réduit, de leur atelier secret. Mais le chien ne pouvait donner l'alarme. À l'approche de Martin Huma, il ne lui fut pas possible d'avertir ses maîtres, de sauver ceux qui avaient mis en lui toute leur confiance. Le poison avait rempli son office, les grains de stupéfiants avaient fait leur devoir. Le poison s'était dissous dans les intestins du malheureux animal, et sans un tressaillement, sans un cri, sans le moindre soubresaut, le chien, couché à son habitude devant la porte, le nez sur la rainure laissée exprès pour qu'il pût flairer le dehors, ne bougeait plus, il dormait. Les égoutiers, de temps en temps, regardaient leur gardien, et le voyant ainsi attentif et immobile, se disaient « Nous pouvons être tranquilles ». Et ils continuaient leur travail et pressaient leurs billets. En arrivant devant la porte, Martin Huma s'arrêta. Il voulait d'abord s'assurer que le chien était bien endormi. Il se baissa, ne put rien voir, car l'animal obstruait la fente qui se trouvait entre le sol et la porte. Mais alors, Martin Huma écouta. Il entendit bien le chien qu'il pressentait tout près. Il l'entendit respirer. Pour savoir si vraiment l'animal dormait, il passa sous la porte un linge noir imbibé de ce produit chimique et de poivre dont la toile était enduite, et avec la main, il la passa sur le museau du chien de l'autre côté de la porte. Avec les doigts, il toucha même le museau du chien, et le chien n'éternua pas, ne fit aucun mouvement, demeura dans son immobilité. « Il est comme mort, » dit alors Martin Dumas, « comme nous le voulions. » Il ne resta plus au roi des détectives qu'à glisser sa clé fameuse ouvrant toutes les serrures, dans la serrure secrète qu'il avait devinée cachée dans la muraille, à ouvrir la porte et à pénétrer dans l'antre des malfaiteurs. Nous savons ce qui se passa ensuite. Nous avons assisté à la lutte, au départ de Martin Dumas en portant sur son dos l'un des faux monnayeurs. Martin Dumas avait pressenti, en se relevant après avoir maîtrisé son adversaire, qu'un autre danger des plus graves nous menaçait et que ces bandits devaient avoir pris des précautions extraordinaires et implacables pour punir ceux qui auraient découvert leur atelier secret. C'est pour cela qu'il nous cria de nous en aller aussitôt et que lui-même se disposa à sortir. Il avait deviné la mine. Mais si prompt que nous eussions été, nous fûmes surpris par l'explosion. Prosper, Philippe et moi, nous nous relevâmes sans trop de mal, mais Martin Dumas avait disparu sous les décombres. Pendant de longues heures, jusqu'à l'arrivée des pompiers, des agents du service de la ville, de tous ceux enfin que cette explosion attirait en ce lieu, Philippe, Prosper et moi, d'autres agents de Martin Dumas, nous demeurâmes près du théâtre de l'accident. Philippe et Prosper, armés de piques et de pioches, de pelles, commencèrent le déblaiement. Ils purent, des décombres, retirer des empreintes, des preuves enfin que là se tenait un atelier de faux monnayeurs, mais ils ne découvrirent rien ayant appartenu à leur chef. Cependant, au moment de l'explosion, Martin Dumas se trouvait auprès d'eux, sur le pas même de la porte. Où donc avait-il été projeté? Il était impossible que l'explosion eût pu le réduire en miettes, en fumée, qu'on ne retrouvât rien de lui, rien, absolument rien, ni de Martin Dumas, ni de l'homme enfin qu'il portait sur son dos au moment de la fuite. Là était un mystère absolument incompréhensible. On eut beau remuer les décombres, on eut beau fouiller dans ce tas de gravats, de boue, de tuyaux, on ne trouva rien, pas le moindre indice de Martin Dumas. Les recherches continuèrent de plus belle. Prosper et Philippe commençaient à se désespérer et à croire que cette fois tout était fini et que ce souterrain de malheur avait été pour jamais fatal à leur chef. Au jour, après de longues heures de travail, comme exténués ils remontaient à la surface du sol et allaient se restaurer, prendre de nouvelles forces pour redescendre, se remettre à la recherche de vestiges de leur chef, du cadavre de cet homme admirable, qu'ils aimaient comme un père. Les larmes aux yeux, faisant tous leurs efforts pour cacher leur douleur et ne pas être reconnus des gens qui étaient là, passés pour de simples ouvriers, ils allèrent s'installer pour prendre quelque nourriture dans un petit débit de la rue Saint-Lazare, voisin de l'accident. Ils s'étaient mis dans un coin, à une table écartée, tous deux, afin, tout en mangeant pour ainsi dire par force, de pouvoir échanger leurs opinions, discuter sur ce fait bizarre. Quand un homme, chef d'équipe de terrassiers portant la casquette des employés de la ville, avec une grosse barbe rousse, vint s'asseoir à une table à côté d'eux. Cet homme était plein de taches de boue. À ses souliers, on voyait qu'il avait dû faire une longue marche dans un terrain gluant et sale. Il demanda au garçon de lui servir le plat du jour. Il ajouta « Servez-moi vite, je n'ai que quelques instants. Il faut que je rejoigne mon équipe dans les sous-sols. Nous travaillons à cette singulière explosion de gaz à laquelle personne ne comprend rien et qui aurait pu causer les plus graves dégâts dans le quartier. » Quand le garçon se fut retiré avec la commande en assurant que 2 minutes suffisaient pour le faire déjeuner, ce client jeta un coup d'œil circulaire. Voyant que les autres clients, assez rares, se trouvaient plutôt sur le devant du débit et qu'avec Prosper et Philippe, il était dans ce coin à peu près seul, il se retourna et fit un simple geste. Aussitôt Prosper et Philippe tressaillirent et ils eurent dans les yeux la plus grande stupéfaction. En même temps, leur visage s'éclaira de la plus sincère joie. Mais, fortement dressés, ils furent maîtres d'eux-mêmes et se rassirent tranquillement, sachant maintenant qu'à côté d'eux se trouvait celui qu'ils cherchaient avec tant d'ardeur au fond du souterrain. Celui qui avait été pris sous l'éboulement. Celui qu'on croyait réduit en miettes, tué après cette formidable explosion. Martin Dumas était là. Martin Numa, qui s'apprêtait lui aussi à se restaurer. Ces trois hommes, l'un à une table, les deux autres à la table voisine, n'ayant plus l'air de se connaître, mangèrent du meilleur appétit qui fut. Puis, peu après, ils se retirèrent. Et Martin Numa, ayant au passage fait un nouveau signe, au lieu de regagner le chantier, les deux hommes se dirigèrent du côté de la Trinité. Peu après, poursuivant leur route, ils gagnaient la cour de la gare Saint-Lazare. Là, ils montaient dans un taxi au milieu du brouhaha, des allées venues de la foule de voyageurs sans attirer l'attention de personne, et ils rentraient chez eux, attendre les ordres de leur chef. Martin Numa, lui, retourna sur le chantier, se mêla aux travailleurs, suivit l'enquête, ne perdit rien des premiers travaux de sondage et du commencement de reconstitution du souterrain, puis il abandonna cette affaire. Son but était atteint. Il avait, sinon arrêté les faux monnayeurs, du moins détruit l'atelier où il fabriquait les faux billets. De plus, il avait pu, lui, enlever le corps d'un homme qui se trouvait en ce moment dans une des chambres privées de l'Hôtel-Dieu en traitement. C'était cet homme avec qui il avait lutté le soir de la surprise, celui qu'il avait emporté sur le dos au moment où l'explosion eut lieu.